matin, je suis particulièrement contente parce que je reçois à l'antenne Guillaume Cosmiki, quelqu'un que je connais fort bien puisque c'était mon premier invité ici chez Wake Up Call l'année dernière. Il me semble que c'était au mois de novembre, c'est bien ça. Bonjour Guillaume.
Oh, je pense que ça doit être ça. Bonjour, bonjour Diana.
Ah ben c'est cool, ouais. Je crois que c'était prise d'antenne pour la première fois vers le 15 novembre et nous avions donc fait cette première émission tous les deux ensemble sur le livre que tu avais écrit, le deuxième bouquin que tu as écrit sur la free party.
Sur les free parties, c'était ça, exactement,
ouais.
Exactement.
Est-ce que c'était un bon moment pour toi ?
Ah, c'était très sympathique, c'était épique aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit stress dans l'air, il y avait plein de choses, puis on avait passé de la techno assez exaltée, de bon matin, comme ça, c'était sympathique. Oui, c'est un bon souvenir, très bon souvenir.
Carrément. Et d'ailleurs, tout à l'heure, au déroulé de l'émission, eh bien, Guillaume va nous proposer également une sélection musicale. On va démarrer avec un morceau Lambda, et puis après, c'est lui qui va gérer les manettes. Mais il est là aussi également, puisque nous allons parler d'un livre qui a paru dans les éditions Le Mot et le Reste, Sermon radiophonique par Hakim Bey. C'est un livre que tu as signé, donc la préface, Guillaume.
Voilà, j'ai écrit l'introduction de ce livre, d'Hakim Bey.
Chez Wake Up Call, ce matin, je reçois Guillaume Cosmiki. Il est venu nous parler de ce livre qui s'appelle « Sermon radiophonique » paru aux éditions Le Mot et le Reste, une maison d'édition qu'il connaît fort bien puisqu'il a déjà publié au moins deux livres.
C'est ça, tout à fait.
Eh bien, ce livre n'est pas à lui, c'est à Hakim Bey. Néanmoins, il y a quand même écrit l'introduction de ce livre. Il va nous commenter. Mais avant tout, Guillaume, j'aimerais bien savoir qui est Guillaume Cosmiki.
Je suis musicologue de formation et donc je m'intéresse plus particulièrement aux musiques du XXe siècle et encore plus précisément aux musiques électroniques, mais c'est pas ma seule spécialité, on va dire. Je m'intéresse à toutes les musiques en général, hein, et c'est vrai que j'interviens même beaucoup aussi sur les musiques classiques, mais on a eu l'occasion de se voir deux fois déjà dans cette émission pour les deux ouvrages que j'ai sortis, donc Coup sur coup chez Le Mot et le Reste. Un sur les free parties, qui a vraiment été un peu ma passion, mon dada, et qui a été un peu le fer de lance de mes recherches. Puis un autre sur les musiques électroniques en général, sur tout le XXe siècle. Donc c'est vrai que là, pour le coup, j'avais traité des deux sujets de prédilection. Voilà.
Oui,
donc,
des livres passionnants dont c'est lui qui te dit le premier, retrace véritablement le parcours un peu de l'arrivée de cette musique électronique dont ce qu'on vit avec elle aujourd'hui, quoi.
Oui, oui, en fait, ça partait de très 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 loin à la naissance de l'enregistrement, fin 19e siècle, et puis on arrivait jusqu'à nos jours avec toutes les révolutions technologiques et esthétiques du siècle, en fait, hein, oui. Vraiment, avec plein de choses.
Des livres que j'ai adoré, je les lis tous les deux, je vous conseille vivement, puisque si vous aimez la musique, ce sont des incontournables. Alors, revenons sur les sermons radiophoniques par Hakim Bey. Hakim Bey, déjà, c'est pas le vrai nom de ce personnage qui a écrit ce livre. Hein.
C'est un pseudonyme, ouais, tout à fait. Mais bon, c'est un pseudonyme sous lequel on le connaît très, très, très bien. Disons qu'il a un ouvrage tout particulièrement qui a déjà bien marqué les Français, en tout cas, parce qu'aux États-Unis il en a paru un bien plus que ça, mais il y a un ouvrage en France qui a marqué les années 90. Il est sorti à la toute fin des années 90, en 98. C'était TAZ, en fait, la Temporary Autonomous Zone, enfin zone d'autonomie temporaire comme on le dit en français, ou zone autonome temporaire. Et c'est vrai que ça avait bien marqué le paysage à l'époque. Il y avait eu pas mal de retentissements médiatique. C'est vrai que même on l'avait vu, alors qu'on le voit pas souvent, cet Hakim Bey, on l'avait vu même sur une émission sur Arte à ce moment-là, sur les utopies pirates, etc., etc. Et ça avait beaucoup parlé. Moi, ça m'a intéressé tout particulièrement, évidemment, parce que ça avait beaucoup parlé à une culture qui était en plein essor et qui était en train d'exploser. C'était la culture free party, puisque ce qu'il disait semblait correspondre parfaitement avec ce qu'on y vivait et ce qu'on y expérimentait. Mais ça avait aussi complètement marqué le public, parce que aussi il parlait de net, de web, de réseau, etc. Et il avait écrit ce livre bien avant finalement la révolution internet, et au moment où il paraissait en France, on était en plein dedans, quoi. Il se passait des choses. Et voilà, c'était le premier finalement ce qui a le plus touché
les lecteurs ici en France,
voilà,
notamment.
Tout à fait.
Alors, deux choses. La première, c'est le titre, hein, Taz. Donc déjà, c'est le diminutif d'Ecstasy. C'est bizarre. Bah, ça n'a rien à voir. Mais
c'est
quand
un
même,
hasard. Et c'est un hasard. Mais c'est incroyable. Bah, c'est vrai que ça a bien fait les choses, hein, sur la free party. Ça a résonné d'autant plus, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y avait quelque chose, un petit jeu de mots. Mais c'est totalement un hasard, parce qu'en plus en anglais, c'est pas le cas, quoi. Il est new-yorkais, hein, il est américain, Hakim, mais je l'ai pas précisé, mais voilà.
Voilà, donc la deuxième chose, c'est que je t'invite à nous expliquer un tout petit peu le TAZ, justement parce que dans le livre Sermon radiophonique, il revient en guise de rappel un petit peu pour pouvoir introduire sa pensée dans ce livre Sermon radiophonique. Est-ce que tu pourrais un peu nous dévoiler ce que c'est le TAZ exactement?
C'est vrai, alors il revient, c'est même pas qu'il revient, je pense que ce sont deux idées qui sont totalement liées, hein. Il revient pas sur l'autre parce qu'il les a éditées pratiquement dans la même période, donc c'était vraiment des idées qui le travaillaient, c'était au début des années 90, hein, qu'il les a sorties aux États-Unis. Le TAZ, la zone autonomie temporaire, c'est en fait un moyen, à mon sens, très intelligent d'imaginer la révolte, la contestation, pas toujours, mais notamment lié avec des idées festives. Ça peut être possible, parce qu'il dit que dans la révolte, dans la manifestation, il y a aussi une idée festive, même quand c'est un combat, même quand on est exalté, etc. Il y a toute cette émotion qui peut faire ressortir quelque chose d'une ambiance tout à fait festive. Il dit d'ailleurs que la fête peut être révolutionnaire. Ça nous intéresse tout particulièrement. Moi aussi, tu imagines bien.
Bah oui.
Il précise en fait que la TAZ, c'est un moyen de créer une zone de pouvoir, une zone de contestation, mais qui doit être insaisissable, c'est-à-dire qui doit disparaître, exactement, qui doit disparaître avant même que l'État ou la publicité ou l'économie marchande ou enfin tout ce qui fait la domination ne s'en aperçoive. Et au moment où elle est pointée du doigt, soit qu'on y envoie des forces de police, soit qu'on y envoie, soit qu'on la met en valeur par des publicités, par des émissions, enfin tout ce qui va permettre de la manger, hein, de la bouffer finalement, hein, que ce soit une méthode ou l'autre, eh ben elle est déjà ailleurs. Elle a déjà construit une autre zone de résistance et elle est totalement insaisissable. Et pour faire ça, bah, il s'inspire notamment, pour écrire ça, il s'inspire notamment des utopies pirates. Il revalorise les pirates, on les voit toujours comme des barbares, des sanguinaires, des méchants, etc. Lui, il montre bien que c'était des sociétés très organisées, sur un principe qui le fascine, lui qui est anarchiste, sans chef, de manière très horizontale, etc., etc. Et il montre bien, enfin, finalement, que ce système de parallèle clandestin, hein, de la piraterie, ben finalement on peut l'appliquer sur d'autres combats, sur d'autres valeurs.
D'ailleurs, il s'éteint, le sermon radiophonique, il parle évidemment de la fête, mais il s'éteint aussi sur les disciplines artistiques. Avant d'en venir à l'art, en fait, on va toujours parler de la fête avec toi, puisque il explique bien ce que c'est cette fête finalement. Comment elle doit se dérouler, comment elle doit se dérouler, mais en tout cas, comment elle se manifeste pour qu'elle soit véritablement insaisissable.
Eh bien oui, en fait, dans l'autre livre, donc celui où j'ai écrit cette introduction, donc dans Sermon radiophonique, il y a quelque chose de peut-être plus concret que dans TAZ, c'est peut-être plus théorique, on va dire, hein, même si le mot peut faire peur, hein, ça se lit très bien, c'est assez facile, mais dans les sermons radiophoniques, c'est vrai qu'il y a un aspect pas pour tous les textes, mais il y a un aspect un peu méthode, presque recette de cuisine.
Exactement.
Il explique, mais il donne pas de leçons, hein, éventuellement il y met quelques pistes. Alors le concept, hein, qu'il défend dans Sermon radiophonique, c'est pas le même que TAZ. Il cite pas la TAZ, hein, dans ce livre là mais il parle d'immédiatisme. Alors là, c'est autre chose. C'est autre chose. On va peut-être le définir un petit peu après, mais en quelques mots, en fait, l'immédiatisme, c'est le fait de, quasiment, c'est une TAZ, hein, on peut dire aussi quelque part, mais c'est le fait de réintégrer l'art non pas comme quelque chose qui se passe en, dans un spectacle ou dans une exposition ou dans un lieu consacré, etc. Mais c'est ça, intégrer l'art dans, en fait dans la vie quotidienne et de manière spontanée justement.
Totalement hein, spontanée.
Donc ça c'est la méthode générale, hein, c'est-à-dire faire réintégrer l'art dans un même dans un milieu pourquoi pas, enfin qui déborde le cadre familial parce que le cadre familial c'est trop pour lui trop rangé, trop simple, etc. Et, quelque chose qui se passe entre amis dans un groupement, etc. Il dit que rien que ça, c'est déjà c'est organiser une sorte de résistance. Et quand il dit activité artistique, quand il dit réintégrer l'art dans la vie quotidienne, eh ben il a une définition qui est extrêmement large de ce qu'est l'art, puisque et c'est là où il propose des méthodes. Ça peut être un repas.
Ça peut être un repas,
par
oui.
exemple,
ouais.
un bon repas entre amis. Ça peut être une relation d'amour. Il le dit aussi. Mm-hmm. Ça peut être, en fait, il a une définition, voilà, beaucoup plus large que le simple, voilà, la simple œuvre d'art, le simple morceau, etc. Comme on l'imagine couramment.
Sauf que il partage les repas, les relations amoureuses et autres dans une sorte d'art, dans une discipline artistique aussi, hein, qui fait partie du quotidien. Mais quand il y rentre dans les disciplines artistiques, là, il y met un contexte politique qui doit être véritablement inséparable de la démarche artistique de l'artiste en lui-même, que ce soit par le biais de la musique, de la danse, de la peinture et autres.
Bah disons que c'est toujours un petit peu orienté dans son combat, mais c'est vrai que les thématiques qu'il va proposer hein, pour ces différents repas, alors bon, pour le repas, il n'y a pas de thématique autre que ça, mais par exemple, il dit pourquoi pas, puisqu'il est anarchiste, pourquoi pas faire un thème pour le repas où on mangerait que des aliments rouges et noirs, par exemple. Et donc là, évidemment, il y a un symbole hein, là derrière, et en cela, ça montre bien que c'est un acte de résistance aussi. C'est vrai que c'est, voilà, ça peut être conçu comme ça, ça peut être considéré comme ça, et quelque part, et moi j'en suis persuadé, on fait par tous nos actes, par tous nos gestes, on a quelque chose qui est politique, qui se joue là-dessous. Même par les courses qu'on fait, même par le choix qu'on fait pour se déplacer, etc. Il y a tout qui est politique. Donc finalement, il rejoint totalement ce genre de d'idées, et l'art peut être doit être politique, bien sûr, bien sûr.
Alors voilà, nous sommes ce matin en compagnie de Guillaume Cosmiki, qui a écrit l'introduction du livre Sermon radiophonique de Hakim Bey. Nous allons revenir dans un instant, on va faire une pause musicale. Qu'est-ce que tu me proposes là, Guillaume? Qu'est-ce
Alors
que
là,
tu
veux je propose des choses qui secouent un peu, parce que j'ai proposé en fait du hardcore. Peut-être après j'expliquerai pourquoi on met ça. Bien sûr, c'est un rapport avec la Free Party. Hein. Bien sûr, Hakim Bey, je pense même pas qu'il... Peut-être qu'il a jamais écouté ça, peut-être que j'en sais rien du tout. Hein. Je pense pas. Hein. Je pense même pas qu'il aime forcément, parce que ça rejoint pas trop sa définition de l'art. Mais là, c'est du hardcore. On écoute DJ Tium. C'est old school. Hein. Ça sonne vraiment comme quelque chose de très ancien. C'est DJ Tium et c'est This Outro is for You. Tu l'as trouvé ou tu l'as? Bah, c'est bien. Alors, on écoute ça. Ça secoue. Hein.
Bien, Guillaume Cosmiki, de nous faire entendre ce genre de musique un peu indigeste, si j'ose dire, pour le petit déjeuner.
Comment
quand même.
Ça, indigeste?
Non, c'est parfait, c'est très bien. Écoute, hein, sommes très éclectiques, Canal
mais oui,
B.
Mais oui, c'est parce que je le sais que je proposais ça, mais c'était pour rigoler un peu. Mais c'est
mais
vrai
ouais.
que c'est des vieux souvenirs old school, et voilà. Donc c'est un petit clin d'œil à la Free Party telle qu'elle a été à un moment. C'est vrai qu'on n'y passe plus forcément toutes ces musiques-là, mais à un moment, c'était quand même extrême comme sensation et comme émotion. Et la Free Party, c'était des vrais tas, hein, parce que c'était des fêtes comme ça qui s'organisaient et qui disparaissaient avant même qu'on puisse s'en rendre compte. Hein, c'était le but un petit peu. Et c'est vrai qu'après coup, pas mal des centres système qui organisaient ces fêtes se sont rendus compte hein, que finalement, ce dont parlait Akimbe, c'était très 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 proche de leurs préoccupations et de leur manière de faire. Donc disparaître aussi vite que le finalement à la fin de la fête, plus aucune trace, hein, plus rien qui reste. Il y avait une phrase qui était superbe dans le Akimbe qui nous a tous donné à un moment pas mal de courage. C'était dans Taz, hein, il disait: se battre pour le droit à la fête n'est pas une parodie de la lutte radicale, mais une nouvelle manifestation de celle-ci, en accord avec une époque qui offre la télé et les téléphones comme moyen de tendre la main et de toucher d'autres êtres humains, comme moyen d'être là. Donc ça, c'était évidemment quelque chose qui était en totale résonance avec ce qui se passait, parce que les téléphones mobiles et toutes ces choses-là, ça servait à organiser les fêtes, et ça semblait, on a l'impression qu'il avait écrit ça pour définir ce qui était en cours, hein, vraiment, alors que c'était pas du tout le cas. Donc c'était assez, assez fort, quoi.
Voilà, donc vous avez bien compris, nous sommes en train de parler de Akimbe, qui a écrit Sermon radiophonique, entre autres, hein. Nous étions en train de parler aussi de Taz, d'ailleurs, cette citation vient du livre Taz. Eh bien, Sermon radiophonique, tu as participé puisque tu as écrit l'introduction du livre. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu t'es retrouvé à faire l'intro de ce livre?
Bien, voilà, en fait, hein, c'était le lien naturel. Je viens de le citer. Hein. Mon éditeur donc me connaissait pour la musique électronique, bien sûr, et puis pour le concept de la free party. Et il savait bien qu'il y avait eu des liens assez forts entre les textes de Akimbe et ces événements. Et il m'a dit, bah, pourquoi pas finalement, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas cette introduction? C'est lui qui m'a proposé. Et on a essayé d'aller un peu plus loin qu'une simple présentation des textes. On a essayé aussi de contacter Akimbe. Je dois dire que c'est pas très facile parce que c'est un gars qui semblait parler beaucoup dans Taz de réseau, d'internet, de web, etc. Mais ça, je le savais par ailleurs parce qu'il le dit dans pas mal d'autres textes. C'est aussi quelqu'un qui refuse d'avoir un ordinateur chez lui, donc pas de net, etc. Je sais même pas s'il a un téléphone. Je pense que oui, mais disons qu'on peut pas obtenir son numéro facilement comme ça. Et on est passé par son éditeur, et en fait l'échange s'est fait par lettre et de son côté par des lettres manuscrites, puisqu'il n'a pas d'ordinateur, donc c'est vraiment écrit, on va dire, avec des moyens à l'ancienne, hein, parce qu'on est dans un monde où on n'est plus forcément trop habitué à tout ça. Et dans ses réponses, dans sa manière d'appréhender aussi nos questions, on avait une liste de questions, comme tu peux imaginer, hein, pas mal de choses à lui demander. Et ben il est, à mon sens, il est resté très Akimbe, quoi, très comme il écrit un petit peu. C'est-à-dire que certaines questions, ben, il les a sautées parce qu'il disait bon, je réponds à ce que je peux. Et puis pour d'autres, il a répondu avec des choses un peu amusantes. Et puis pour d'autres, au contraire, il nous a lancé sur des pistes assez intéressantes. Alors son écriture elle correspond bien à son idéologie. Hein, elle est anarchiste. Hein, elle est libre. Hein, on va dire. Je l'emploie pas dans le sens. Souvent, on dit anarchiste, c'est le chaos, c'est l'horreur, c'est le désordre, etc. C'est pas du tout le cas, hein. C'est une manière un peu poétique qu'il a d'écrire, et son courrier c'était un petit peu ça aussi.
Alors, son courrier était un petit peu ça. Le livre, lui, Les Sermons radiophoniques, je suis heureuse d'apprendre qu'il reste quand même puriste, même dans sa démarche, je vais dire, quotidienne, personnelle, puisque pour le coup, là, effectivement, ça cautionne bien les pensées qu'il énonce dans le livre, en tout cas dans les premières parties du livre, mm-hmm. qui nous laisse totalement, mais comment dirais-je, dans l'espoir, mm-hmm. dans un rêve, si j'ose dire, c'est vraiment très trippant. En revanche, je trouve qu'à un moment donné, pour moi, hein, personnellement, il glisse un tout petit peu dans la peau de banane à la fin du bouquin, parce qu'au début, pour mettre en lumière ses propos, eh bien, il y a beaucoup de citations, beaucoup de références. Et puis, au fur et à mesure, quand on arrive la moitié vers la fin du livre, il continue de le faire, mais là, on perd un peu le fil de ce qu'il dit vraiment. Ça devient un peu freestyle. On a l'impression qu'il ne cautionne plus tellement et qu'il a pour le coup qu'il s'appelle puis vraiment sur ces références-là pour terminer et s'en sortir de sa proposition de début. Après, effectivement, je vais nuancer mon propos puisque ces sermons radiophoniques ont été écrits non forcément pour être lus, mais comme une pièce de théâtre pour être jouée à la radio. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer et me dire si ma sensation par rapport à mon vécu de lecture tient quand même la route ou pas, quoi.
Eh bien, je vais poser une question sur l'ordre des textes, sur la mise en forme, etc. Et c'est vrai qu'il a pas, il a pas répondu là-dessus. C'est vrai que la forme du livre peut être surprenante. C'est vrai que ça correspond bien à une série d'émissions, comme tu le dis. C'était des textes dits à la radio, au début des années 90. Par un collectif dont il faisait partie, hein, sous son vrai nom, qui est Peter Lambert, je dis pas de bêtises, c'est Peter Lambert Wilson, voilà. La radio devait se prêter, à mon avis, à une succession un petit peu comme une tapisserie, quoi, de ces différentes idées, puisqu'il devait y avoir une émission par jour. Quelque part, je crois que le livre, il faut le lire un petit peu comme ça aussi, comme un petit texte par jour ou par semaine, je sais pas. On n'est pas forcément obligé de le lire d'une traite. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de citations, qu'il fait beaucoup de références qui sont un petit peu difficiles pour nous français. On n'a pas toutes ces références qui sont vraiment très américaines, puis en même temps qui viennent de sa propre culture, de ses propres parcours. Mais je pense que les textes de la fin sont aussi importants que les textes du début. C'est vrai qu'il y a la belle introduction sur l'immédiatisme, mais peut-être que voilà, pour t'en rendre compte, il faudrait ouvrir le livre à un autre moment, à un autre jour, puis lire un de ses derniers textes, lire une de ses dernières choses. Et à mon avis, on n'est pas dans ce moment où on est un peu égaré, quoi. Je veux dire, où il y a trop de références, comme tu veux le dire. Je crois qu'ils sont tous.
Mais il se cache un peu derrière ces références dans cette deuxième partie. C'est ça qui me gêne, en fait, un petit peu.
Je crois qu'il fait exactement la même chose dans la première. Hein. Moi, à mon sens, hein. c'est ce que j'en pense.
Ou alors les références de la première partie nous parlent plus parce qu'effectivement, il y a des choses plus liées à l'Europe et les sites des théâtres allemands. Ouais. Voilà quoi, la culture elle est quand même plus proche, et après effectivement on se sent un peu égaré, un peu perdu, un peu sans référence, et juste avec les moyens qu'il nous donne parmi les références qu'il cite vers la fin, de s'accrocher à quelque chose qui pour autant on était vachement accroché au départ, quoi.
Moi, pour moi il y a par exemple un exemple qui est intéressant sur la fin, qui vraiment me parle, c'est quand il parle de Lascaux. Là pour le coup c'est vraiment droite. Chez nous, et en gros il dit que finalement cet immédiatisme, cette intégration de l'art à la vie quotidienne, bah, c'est retrouver Lascaux dans notre monde d'aujourd'hui, c'est se passer finalement de la révolution néolithique. La révolution néolithique, c'est le moment où on a commencé à partager les tâches, partager le travail, et les révolutions agraires et tout ce qui a entraîné finalement l'industrialisation et le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il dit que revenir avant, à un moment où l'art, le sacré, la vie quotidienne, la tribu, hein, tout le monde était dans le même bain et donnait des choses géniales comme Lascaux. Et pour lui, c'est pas un hasard. Alors là, c'est un petit peu presque mystique, hein, de dire ça, mais c'est pas un hasard si aujourd'hui on redécouvre Lascaux, si aujourd'hui on tombe sur cette grotte, parce qu'on n'aurait jamais pu la comprendre, on n'aurait jamais pu comprendre ce dont il s'agit, ce dont il est, ce qui est en cours dans cette action, dans cette merveilleuse fresque, dans ces merveilleux dessins. On n'aurait pas pu le comprendre, par exemple, si on avait découvert ça au XVIIIe siècle ou au Moyen-Âge, on n'aurait rien compris de ça.
D'ailleurs, son livre, c'est un peu ça, alors, finalement.
Et sur sa manière d'écrire, alors, c'est vrai que c'est un reproche qui lui est fait assez souvent. Si on regarde sur Internet, ces textes sont la plupart du temps sont tous sur Internet. Hein, on peut dire, il laisse librement circuler les choses. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que il est anti-copyright. Hein, il bloque pas, il fait pas de propriété, etc. Et sur Internet, il y a beaucoup de débats. Il y a des gens qui disent, mais il écrit vraiment bizarrement, etc., etc. Et de temps en temps, ça lui arrive d'y répondre. Et il dit, mais j'écris comme j'écris, vous n'êtes pas obligé de le lire non plus, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit lisez-le ou ne le lisez pas. Il n'a pas envie de devenir une icône non plus. Ça l'embête un peu que Taz soit un succès absolu, parce que presque ça pourrait presque être un produit, hein, le mot Taz, le mot voilà, c'est un concept qui est tellement vendeur entre guillemets que ça pourrait agir à l'encontre de ce qu'il peut penser. Et il dit voilà, moi j'écris comme ça, mais brûlez-moi, ne me lisez pas, ça sert à rien, ne parlez plus de moi. Voilà, c'est un peu le paradoxe, mais je comprends très bien quand il dit ça.
Alors voilà, nous allons entendre encore un morceau choisi par Guillaume Cosmiki ce matin ici à l'antenne de Canal B. Il s'agit de Farman.
Just Kidding, et c'est assez rigolo parce que je l'ai choisi à cette fin-là. On entend un bruit de machine et vous allez voir, la machine elle est torturée là pour le coup. Donc c'est une critique, hein, quelque part aussi de notre société industrielle néolithique. Thank you.
Chez Wake Up Call, ce matin, je suis en compagnie de Guillaume Kosmicki. Nous sommes en train de commenter le livre d'Hakim Bey qui s'appelle « Sermon radiophonique » paru aux éditions Le Mot et le Reste. On va parler d'immédiatisme, ce concept qu'Hakim Bey il nous dévoile dans ce livre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour bien identifier la façon comment il préconise en fait l'art dans le quotidien par ce biais d'immédiatisme?
Ben, il dit que ça peut être vraiment hein, dans la vie quotidienne, mais notamment en fait, il s'inspire. Il prend différentes inspirations, mais il s'inspire par exemple de sociétés secrètes chinoises, les Tong. Hein, mm-hmm. il cite un petit peu ce cas de figure qui peut être gênant pour certains avec lesquels il a discuté. Certains autres théoriciens anarchistes, on dira, qui il a parlé de ce concept de Tong. Ils ont pu être gênés parce que c'est un concept qui est assez élitiste. Alors, il dit, c'est pas forcément de l'élitisme, c'est le secret qui l'intéresse. C'est le fait que ça se passe en dehors de toute possibilité d'être cerné, repéré, soit par de la répression pure et dure, la police, etc., soit par même la publicité. C'est-à-dire que l'art dont il est question, l'événement qu'on est en train de réaliser, ne doit pas être vendu. Surtout pas être vendu, il doit être donné, il doit être partagé, il doit être échangé éventuellement. C'est pour ça qu'il parle éventuellement d'un repas, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi l'élaboration d'une œuvre commune, hein, Killing Bees, comme il parle, il décrit, ou du terrorisme poétique, par exemple, passer dans la rue et puis déclamer des poèmes comme ça au milieu d'un marché, au milieu d'une rue où on s'y attendrait pas du tout, et puis disparaître. Hein, c'est pour ça que ça rejoint un petit peu le concept de la tasse. Donc des choses qui peuvent être très 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 simples. Et moi j'ai une citation qui me parle aussi tout particulièrement, et ça donne beaucoup d'espoir, hein, ce genre de
oui.
choses, hein.
Ah,
parce
oui.
qu'on se dit mais bon sang, on le fait ça,
mais oui, on le fait pas, et pourquoi on le fait plus,
ou pourquoi je le fais pas plus que ça, parce que finalement il nous donne de l'espoir, parce que on se dit des choses qui nous semble très simple et tellement évidente, finalement c'est aussi une forme de contestation, de les vivre et de les mettre en place, et on peut, comme tu dis, le faire encore plus, aller plus loin. Il dit par exemple, là c'est presque de la méthode, hein, c'est presque voilà une recette de cuisine. Il dit se battre pour se réunir. Il souligne bien réunir, hein, c'est très important. En fait, il faut dépasser la famille, dépasser le cadre du travail, etc. Se réunir avec un groupe qu'on forme pour ça. Donc se battre pour se réunir tous les lundis soirs ou n'importe quel jour, hein, et pas de voilà. Malgré l'agitation de la ferment ou de la famille ou d'invitation à des soirées stupides, cette lutte est déjà l'immédiatisme lui-même. Voilà.
Carrément.
Donc simplement trouver un moment pour faire des choses qui ne sont pas prévues dans un planning social, établi, autre que les repas de famille, autre que les concerts et toutes ces choses-là, ça c'est déjà une lutte. C'est bien ça, c'est des choses, on aime bien entendre ça. Et puis
avec un minima de programmation, quoi, c'est la réunion en elle-même, mais
c'est
pas...
c'est ça. Rien que ça, c'est déjà quelque chose, avec un projet commun, c'est ça, avec un projet, avec l'idée de faire quelque chose. Et ce qu'il dit aussi dans l'immédiatisme, et là je suis pas forcément tout à fait d'accord avec lui, il dit aussi que c'est pratiquer un art qui soit le moins médiatisé possible, c'est-à-dire qui passe le moins possible par tout ce qui fait médiation, c'est-à-dire les médias traditionnels, la radio, les journaux, la télé, etc. Le pire étant la télé pour lui, hein.
Ouais, bah ouais.
Bien sûr. Mais aussi les médias, il veut parler de tout ce qui fait l'objet de la médiation, quoi.
Ouais.
Alors pour lui, tout ce qui est technologique est un petit peu problématique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on utilise des instruments qui ont eux-mêmes déjà été façonnés par une société de consommation et eux-mêmes, etc. Eh bien, on n'est pas dans l'immédiat et dans l'art le plus simple qui soit, le plus évident, comme le simple repas, hein, je disais, il va aux fondamentaux, c'est-à-dire le repas, c'est on est là pour manger, pour boire, pour vivre, etc.
On prend une guitare, on joue entre amis, et là on est en train de faire de l'art.
Exactement, ça. Il est beaucoup plus sur ce genre d'idée. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je suis sûr et certain, et je suis sûr que beaucoup le pensent aussi, je suis sûr et certain qu'avec la technologie détournée, avec des manières utiliser la technologie, eh bien, on en arrive à un art immédiatiste. Et pour moi, le meilleur exemple de ça, par exemple dans la musique, hein, vu que c'est mon sujet, c'est le sampleur. Utiliser un sampleur, même à l'époque c'était le magnétophone, quoi. Utiliser un sampleur ou un échantillonneur en français, c'est pouvoir utiliser des œuvres d'art, des sons, des choses qu'on n'a même pas fait, avec lesquelles on n'a même pas
encore songé, voilà, à un moment donné, quoi.
Voilà, qui ne sont pas de notre fait, qui ne sont pas de notre monde, et les détourner complètement, les subtiliser, puis les déformer, les rendre, voilà, les façonner à notre goût. Et finalement, en faisant ça, on fait presque une chaîne de création continue entre des artistes qui se connaissent même pas forcément, qui n'aiment même pas l'idée que ça va donner quelque chose. Le sampleur, c'est quelque chose d'absolument génial pour moi de notre époque dans la musique, et faire de la musique qui se recycle, de la musique qui recycle de la musique, etc. C'est quelque chose qui me fascine et qui est un acte de don, voilà, sans préparation, et voilà, qui peut être apparenté, même s'il ne sera pas d'accord du tout s'il entend ça, Kimbe, qui peut être apparenté à l'immédiatisme. Mais peu importe, en fait, il propose des choses et ça donne de l'espoir, et après on les applique comme on le souhaite. Parfois ça correspond parfaitement à une réalité comme Taz et la Free Party, parfois il faut un petit peu l'adapter, mais je pense que c'est ça qui est intéressant de faire avec ces textes, parce que en tant que tel, comme ça, voilà, est-ce qu'on va tous organiser un repas comme il le veut, ou un truc,
ça s'improvise pas forcément non plus de tel qu'il est décrit, ça se passe, quoi, tout simplement. C'est une évidence, finalement. En revanche, je rejoins ton idée, puisque voilà, c'est là où le serpent se mord la queue, et c'est là aussi ça me gênait un peu dans l'histoire, c'est que il veut prôner son radicalisme, hein, chose qui est tout à fait honorable, mais néanmoins c'est vrai qu'on ne perd pas forcément en qualité artistique, parce qu'on adopte de nouveaux moyens, et justement se mettre dans cette position-là ouvre, comment dirais-je, une porte vers le jugement, vers la critique, chose qu'il essaye de s'échapper.
Oui, oui.
Donc voilà, c'est un peu gênant de voir qu'il finalement il adopte cette posture pour parler que l'art n'est pas tout à fait pur si elle n'est pas faite de la manière comme il préconise.
Ouais, sans médiation.
Moins, quoi, sans médiation.
Voilà.
Eh bien, par contre, ce qui est intéressant dans son livre, et c'est là où il est très très fort, c'est justement dans sa critique vis-à-vis des médias et sur l'aliénation.
Oui, notamment. Oui, tout à fait. Ouais. Ça rejoint le situationnisme, en fait. Hein. Ça rejoint toutes ces idées des années 60. Mais sans le côté dogmatique. C'est ça que j'aime bien chez lui. C'est-à-dire que c'est pas, même si on peut le croire un petit peu, c'est pas un donneur de leçons. De par la manière dont il écrit, de par la manière dont il structure ses textes, où justement, des fois, ça part un peu dans plein de sens, on sait pas trop ce qui se passe, bah, c'est justement pas un dogme.
Ce n'est pas un dogme, c'est pas un donneur de leçons. Néanmoins, il est super convaincu, assez spirituel, voire même un peu mystique.
Oui, totalement mystique. Ah ouais, il a des textes, par ailleurs, hein, qui sont totalement mystiques. Hein, pour le coup, oui, ça c'est sûr.
Drôle de personnage.
Oui, c'est sûr.
Alors, on va écouter un petit peu d'hérétique, ça va bien décoiffer. avec Guillaume Cosmiqui ce matin ici chez Wake Up Call. Nous sommes en train de parler de Hakim Bey, qui est l'auteur du livre Sermon radiophonique paru aux éditions Le Mot et le Reste. Nous étions donc en train de parler en long et en large hein, du contenu de ce livre, mais aussi de précédent, de Taz. C'est un écrivain new-yorkais, comme tu l'as précisé en début d'émission. Et toi, tu as fait donc l'introduction de ce livre, Sermon radiophonique. C'était une mince affaire?
Oh, ça, non, c'était pas forcément trop complexe à faire. Hein. Je te disais, il y avait un lien naturel entre ces idées à Hakim Bey et un sujet qui a été un de mes sujets de prédilection, donc la free party. Donc j'étais assez à l'aise pour le faire. Et en fait, ce que j'ai surtout cherché à préciser, à présenter dans l'introduction, c'est l'actualité de ces propos et c'est la résonance qu'ils ont, y compris même pourquoi pas dans les révolutions arabes, notamment
ouais.
La Tunisie où on l'a cité pour l'utilisation des réseaux, d'internet, etc. pour communiquer, pour créer ces bulles de résistance. En fait, hein, donc voilà, j'ai surtout insisté là-dessus, hein, sur l'actualité de la chose, parce que il n'est pas dogmatique, on le disait il y a un tout petit instant, Hakim Bey, mais voilà, il propose des tas de choses, des tas d'idées qu'on prend ou pas, mais généralement ça résonne assez bien avec beaucoup de choses qui se passent hein, dans notre monde, qu'elles soient artistiques ou vraiment de contestation pure et dure, des combats politiques, etc.
Pourtant, on peut dire qu'Hakim Bey, elle est complètement allergique aux médias.
Dans l'immédiatisme, c'est vrai qu'il a cette volonté de présenter et de promouvoir un art le moins médiatisé possible. Alors il emploie médiatisé dans un sens très large. Hein. Au-delà du simple média, c'est aussi l'objet, c'est aussi enfin tout ce qui fait médiation hein, entre un être et un autre, c'est ce qui se met entre les deux. Voilà. Donc dans le tas, il parle des écrits, il parle de la radio. Il y a une hiérarchie, on va dire, entre le moins médiatisé et le plus médiatisé. Il y a les écrits, la radio, et il les place en bas. Donc ça va, ils sont
ouais,
pas trop. Ça va,
en bas. D'ailleurs, il y avait intérêt puisque Sermon radiophonique,
oui,
ce sont des textes.
À la radio quoi. Puis après bon il y a les films, il y a la télévision, l'horreur et puis la réalité virtuelle. Pour lui c'est inimaginable ce genre de truc là. Enfin il aime pas. Mais ce qu'il faut bien préciser quand même, bon c'est très paradoxal. C'est vrai que c'est paradoxal parce que lui-même s'exprime, lui-même dit les choses, il se met en avant sous un pseudo, mais il se met quand même en avant. De temps en temps il répond à des interviews et tout le temps il dit ne m'écoutez pas aussi. Il insiste, oubliez mon concept, c'est pas ça le plus important. Donc c'est toujours paradoxal de présenter des choses, les situationnistes ont le même problème, hein, tout en disant qu'il faut pas mettre en avant trop de choses. Bon, ça c'est un fait, mais il y a une deuxième chose quand même qu'il faut bien préciser, c'est que il dit pas que c'est mauvais, il dit pas ne faites plus d'œuvres d'art dans les musées, ne faites plus de disques, ne faites plus de choses comme ça, il ne le dit absolument pas, il dit continuez à faire ça, mais à côté, faites de l'art immédiatiste. Il dit,
c'est une sorte de prise de conscience, quoi.
C'est ça. Il dit, rien n'empêche qu'on continue à être dans le monde qu'on est. Il ne faut pas être trop radical. Il le dit, hein, quelque part. Bon, il prône une certaine radicalité, mais il laisse toujours cette liberté. Et ça aussi, c'est anarchiste. Hein,
quelque part, c'est réaliste.
Bah oui,
également,
oui, oui.
Hein.
Oui, oui, mais c'est important qu'il le fasse. Et c'est pour ça qu'il n'est pas messianique ou dogmatique, voilà, c'est pour ça qu'il laisse voilà, on peut se dire bon ben je suis obligé de faire quelque chose, ça peut être bien aussi hein, de faire ces choses là moi j'aurais tendance à dire, et là c'est mon avis, j'aurais tendance à dire que même dans la forme très figée du concert ou de la pièce de théâtre où quelque chose se joue sur une scène et que tout le public se tait hein, et n'intervient surtout pas et pratique pas d'art hein, pour le coup là c'est pas immédiatiste du tout, et ben j'aurais tendance à dire que ça il faut le préserver malgré tout, faire l'asco, peindre tous ensemble, faire un repas, tout ça c'est super, mais des œuvres qui se font sur cette manière de faire, on ne pourra jamais les faire dans une, pour moi hein, dans une pratique commune, et je pense que ce qui est important c'est de conserver les deux.
Voilà, complètement. Et ouais, ça, c'est vrai que c'est assez étonnant quand on lit ces propos, puisque on se dit, mais effectivement, c'est dans la forme finalement, parce que dans le fond, les textes théâtraux ne sont pas forcément mis en question.
Non, mais c'est sûr que même il va citer Bertolt Brecht, il va citer des auteurs qui par certains côtés sont aussi très traditionnels hein, dans leur manière de faire les choses, etc. Mais voilà, il laisse la liberté, il laisse la possibilité de faire les deux. Je pense que lui préférerait que tout aille vers l'immédiatisme, hein, mais moi je pense qu'il faut garder les deux, qu'il faut se préserver les deux. À côté de mon étude, de mes pratiques, moi, de la free party, de la liberté, de l'œuvre en commun, du sample et de toutes ces choses-là, je pratique le violon classique et je suis dans un orchestre avec un chef d'orchestre, et quand on joue du classique, eh ben on est dans une ambiance très 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 silencieuse, avec un respect absolu de ce qui est en train de se passer, et puis le public n'intervient pas, il faut pas qu'il intervienne. Eh ben je trouve que les émotions qu'on a dans les deux domaines sont des émotions très différentes et il faut se laisser la possibilité d'avoir toute la palette.
Toute la palette. Voilà. Effectivement. Alors, ce qui est aussi intéressant dans le livre, en tout cas, qui nous parle fortement, si on est déjà prédisposé à penser de cette manière-là, c'est sa haine de la télé. Hein.
Ah oui, ça c'est sûr.
Vraiment, ouais. Il y va pas dans la dentelle.
Hein. Ça c'est sûr. Actuellement, hein, dans les dernières interviews qu'il va donner ou les derniers textes qu'il fait, il s'attaque aussi à Internet. Hein, donc ouais. Voilà, il est pas aussi pro-Internet que ce qu'on pourrait le croire dans certains de ses écrits, notamment dans Taz. Mais c'est vrai que la télé, il déteste ça.
Il dit que c'est véritablement un espace où on bride totalement la créativité des gens, que ce soit du côté de ceux qui travaillent, mais aussi du côté de ceux qui assistent.
Aucune imagination possible, il dit. Voilà, avec la télé, aucune imagination possible, c'est un message imposé. Voilà, c'est ça. Il dit qu'alors qu'avec la radio, justement, parce qu'on n'a pas l'image, on n'est pas totalement pris, on peut laisser libre cours à son imagination.
C'est un peu moins pire.
Chers auditeurs, soyez libres.
Ouais, soyez libres, t'inquiète. Tout va bien se passer. C'est la fin de l'émission Wake Up Call. Ce matin, j'étais en compagnie de Guillaume Kosmicki pour le livre Sermon radiophonique de Hakim Bey. Donc, Guillaume a écrit l'introduction de ce livre qui est paru dans les éditions Le Mot et le Reste. Des projets, Guillaume ?
Je suis en train d'écrire un troisième livre, oui, sur les musiques savantes, aussi Le Mot et le Reste, qui paraîtra peut-être d'ici un an ou un petit peu moins, sur les musiques savantes au XXe siècle, en fait. Tout un parcours du XXe siècle avec 150 œuvres, pour que ce soit très synthétique et que même les gens qui ont un peu peur de ces musiques-là puissent y piocher tranquillement sans être écrasés sous une masse. Trop, voilà, des choses, des jalons.
Bon, bah, je suis très contente parce que sans vouloir rien programmer, il y aura de l'immédiatisme entre nous très prochainement pour le commentaire de ce livre, j'espère bien en tout cas.
Je l'espère aussi, ça sera avec plaisir.